Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Hillary Clinton, Donald Trump. Monday, September 26th at 9 Eastern, 6 Pacific. Stream it live with the NBC News app.
Bonsoir à tous. La bande-annonce de la chaîne américaine NBC en vue du débat de cette nuit. Hillary Clinton face à Donald Trump. Pendant 90 minutes, premier débat des deux candidats à la présidentielle américaine de novembre. Ce sont plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs cette nuit qui sont attendus partout dans le monde. Débat à enjeu crucial, c'est ce qu'affirment les observateurs, car dans les sondages, l'écart effectivement entre les deux candidats se resserre. Et pourtant, dans l'histoire, on va le voir, rarement ce type d'exercice a inversé le cours d'une présidentielle. Alors que doit-on attendre du face-à-face à venir? Simple show télévisé ou véritable exercice pour convaincre? C'est le débat du jour. Et nos deux invités à mes côtés en studio, Anne Desine, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre. Face à vous, Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, vous avez animé deux débats présidentiels en France, hein. On va en reparler. Mais d'abord, je voudrais poser la première question à vous, Anne Desine. Qu'est-ce qui fait que ce débat est si attendu? Il pourrait battre un record d'audience, peut-être même faire mieux que le Super Bowl, qui est l'événement chaque année le plus suivi à la télévision aux États-Unis. Pourquoi ce face-à-face attire autant d'excitation? Est-ce que c'est uniquement parce que les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages?
Non, pas seulement. C'est parce que tous les deux sont détestés. Ils ont des taux d'opinion défavorables qui sont à 60%. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui n'aiment pas Hillary Clinton, qui n'aiment pas Trump, que l'inverse. Donc chacun a un boulot considérable à faire ce soir. Trump doit prouver qu'il connaît quelques noms de leaders internationaux, qu'il a une idée de quelques questions politiques et économiques, et surtout, il doit montrer qu'il a le tempérament pour être présidentiel. C'est-à-dire que le grand danger pour lui, c'est de disjoncter. Là, il n'y a pas de téléprompteur, il n'y a pas d'antisèche, il n'y a rien du tout. Gros risque, disjoncter et partir dans « je vais faire un mur », etc. Hillary Clinton, c'est pas simple non plus. Elle ne peut pas se contenter de critiquer Trump comme elle l'a fait dans ses publicités négatives en disant « il n'a pas le tempérament, il ne peut pas être commandant en chef ». Ça ne suffit pas. Il faut qu'elle montre qu'on peut lui faire confiance. Et l'un des dangers, et elle est tombée dans le piège il n'y a pas longtemps, ce serait d'être condescendante. Quand elle a parlé des déplorables, c'était la même erreur qu'avait faite Mitt Romney quand il avait parlé des 40%, 47% d'Américains qui, etc. Il ne faut jamais, c'est une règle politique, attaquer les électeurs. Et là, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, mais aussi au langage corporel. Rappelons-nous certains débats. Prenons l'exemple, alors on sait Nixon qui était fatigué, bon ça c'est classique, 1960.
Le record d'audience, 180 millions de téléspectateurs dans le monde cette année-là.
Oui, mais c'était le début de la télévision, personne n'avait encore bien compris l'impact, puisqu'en fait il avait gagné pour ceux qui avaient écouté à la radio, et il avait perdu pour la télévision. Donc ça c'est connu. Moins connu, en 2000, tout récemment, Al Gore. Vous savez que l'écran est toujours divisé en deux, donc on voit le candidat qui s'exprime et l'autre. Et il était en train de prendre des airs excédés, de soupirer, parce que George Bush n'était pas très très bon, c'est vrai. Donc il ne faudrait surtout pas qu'Hillary Clinton tombe dans ce piège du mépris et de la condescendance. Ça lui poserait un gros, gros problème.
Michel Cotta, donc je le disais en amorce de cette émission, vous avez animé les débats de l'entre-deux-tours en France en 81 et en 88. À quel face-à-face est-ce qu'on pourrait comparer cette affiche, justement, entre Trump et Clinton?
Alors, pour le moment, aucun.
C'est inédit?
Aucun, c'est complètement inédit. Un personnage comme Trump venant de la société civile et assis sur une solide fortune, ça n'est pas comparable. Et puis en France, jusqu'à présent, on verra si c'est le cas la fois prochaine, se sont affrontées des personnes donc qui représentaient un camp politique, qui avaient un lourd passé de politique derrière eux. Qui incarnait chacun des options politiques différentes, c'était très, si j'ose dire, entre pros. Alors on peut toujours faire une erreur, y compris quand on est entre pros, on peut toujours déstabiliser l'autre, sûrement. Enfin, il n'y avait pas la même interrogation qu'il y a aujourd'hui sur qui le premier va faire une gaffe irréparable.
Notamment avec Donald Trump, qui est vraiment le candidat inattendu.
Oui, mais elle peut aussi, la sent fragile aussi. Donc on sent de ce point de vue-là que chacun des deux peut tomber dans un de ses travers.
Donc on dit que c'est une première déjà, parce qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu un face-à-face entre un homme et une femme pour un débat présidentiel. Mais finalement, c'est ce que soulève Michel Cotta. C'est plutôt la personnalité des candidats qui fait que ce débat est hors norme.
Oui, la personnalité est très importante et l'obstacle principal pour Hillary Clinton, c'est que, en fait, elle s'est complètement murée. Il faut se rappeler qu'elle est dans la vie politique, la vie publique depuis 40 ans, qu'elle a été critiquée, elle et son mari, depuis les années 80, quand il était gouverneur de l'Arkansas. Et on lui a reproché, on leur a reproché tout le scandale Whitewater, le Travelgate, le suicide, etc. Rien n'a pu être établi. Mais donc, elle a cette habitude d'être critiquée sans arrêt, donc elle s'est murée. Et ce n'est pas pour l'excuser, mais c'est une partie de l'explication pour le serveur. Pourquoi a-t-elle fait un serveur privé de façon à être un petit peu tranquille? Et c'est l'explication, mais c'était une erreur monumentale, pour la pneumonie. Si dès le vendredi, elle avait dit, ben voilà, j'ai attrapé une pneumonie.
Qui lui a obligé à suspendre quelques jours sa campagne.
Oui, mais suspendre, c'est pas grave. Et je vais m'arrêter, tandis qu'elle a attendu de s'effondrer devant tous les smartphones de la planète, qui ensuite ont été diffusés en boucle. Et on lui a reproché, non pas d'être malade, encore qu'il y a beaucoup de sexisme et de misogynie dans les attaques. Et on lui dit qu'elle n'est pas assez résistante, etc. Mais on lui a reproché, une fois de plus, de dissimuler.
Donc attention aux erreurs de Hillary Clinton. Finalement, elle a plus à perdre que Donald Trump cette nuit.
Moi, je crains deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on va être plus... En plus, il y a un seul modérateur. Je ne sais pas, et j'ai assisté à de nombreuses interviews de Trump. Il est capable de résister 10 fois... Jack Tapper, qui est un très bon intervieweur sur CNN, a essayé de lui extorquer des réponses précises sur des points. Et il revenait, très poli, sir, et à chaque fois, Trump évitait. Donc il est à craindre que ce soir, il s'en tire sans donner des précisions sur ses politiques.
Oui, mais alors s'en tirera-t-il? Alors s'en tirera-t-il? Parce qu'il y a quand même un minimum de socle. Dieu sait que les programmes ne font pas tout, mais il y a quand même un minimum de programmatique qui doit pouvoir expliquer.
Oui, il y a trois grandes thématiques.
Autour des grands, oui, c'est ça.
Direction d'Amérique, prospérité et sécurité.
Oui, c'est ça. Mais vous voyez à quel point c'est vague par rapport à nos débats présidentiels en France, qui est politique intérieure, politique extérieure, sociale, économique. Ça, on s'y retrouve. Donc ces trois débats. En tout cas, je trouve que personne. Je suis pas sûr que ces débats aient une importance capitale. Mais en tout cas, on voit quand même qui les gagne et qui les perd. Alors peut-être chacun est suivi par ses partisans, donc ça n'est pas très apparent. Mais on voit que, par exemple, François Mitterrand a perdu en 1974 et a gagné sur une phrase en 1981. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a entraîné l'élection une fois et l'élection de Giscard une fois et l'élection de Mitterrand après? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, les erreurs sont possibles.
On va évoquer effectivement le parallèle avec la France, mais en tout cas un débat... pas d'une importance capitale, vient de dire Michel Cotta. Vous êtes d'accord pour le débat de cette nuit entre Clinton et Trump, Anne Desin?
Alors, c'est très, très difficile. Comme la campagne était imprévisible, on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans ce débat. On peut imaginer que Trump fasse preuve d'un self-control considérable et qu'il y ait presque un semblant de débat sur les idées. Mais on peut aussi imaginer que l'un des deux dérape. Parce que, imaginons que le modérateur pose une question plusieurs fois à Trump qui va se défiler. Si Hillary Clinton essaie d'obtenir la réponse, là, elle va paraître agressive et elle va tomber dans le piège dont je parlais tout à l'heure.
Et notamment les capacités d'improvisation de Donald Trump.
Et si elle ne dit rien, on dira elle est battue, elle n'est même pas capable
de se défendre. Voilà, et c'est en ça que je dis qu'il y a quand même beaucoup de misogynie dans cette campagne et contre Hillary Clinton, quelle que soit l'idée qu'on ait d'elle, parce que quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas gagner. Si elle est un peu agressive, ou disons pugnace, on va lui dire qu'elle est agressive et mégère. Si elle ne fait rien, on va lui dire, oui, vous êtes bien trop faible, vous ne saurez pas vous défendre vis-à-vis de Poutine.
Il y a beaucoup, effectivement, d'anti-féminisme là-dedans. Oui.
Est-ce que c'est d'augure, en tout cas, et c'est la grande question ce soir, à changer le cours de la présidentielle?
On ne sait pas. Lorsqu'on regarde ces débats, donc on a mentionné des tournants, c'est-à-dire des candidats qui vraiment ont commis des impairs ou au contraire ont gagné des points. Je me rappelle Reagan, qui était quand même considéré assez vieux lors de sa réélection.
Lorsqu'il a souri, éclaté de rire en disant « il va encore me sortir les mêmes salades ». Il faut dire que Carter avait les yeux d'un chien battu.
Oui, battu. En 84, quand il a dit « écoutez, je ne vais pas utiliser contre vous la carte de l'âge en disant que vous êtes jeune et inexpérimenté ». Bon, c'était fantastique. Tout le monde a ri et il a gagné tout un tas de points. Simplement, ce que montre l'histoire et l'analyse des statistiques, c'est qu'en fait, c'est comme les conventions. Il y a un rebond, donc il y en a un qui va gagner, qui va être meilleur, qui va avoir un léger rebond, mais je ne suis pas sûre qu'à terme, ce soit vital.
On dit qu'aux États-Unis, voilà, à seulement deux exceptions montrent qu'il y a eu un changement du cours des événements en 60 et en 80.
Oui, c'est un peu ça. Bon, 92 aussi, parce qu'il y avait... Mais là, c'était spécial parce qu'il y avait George Bush père, Ross Perot, une des rares fois où il y avait un tiers candidat qui était là, qui a un petit peu détruit le jeu, et Bill Clinton, qui était très pugnace, et George Bush qui regardait sa montre. Mmh. Bon, alors voilà, mmh. Là aussi, erreur fatale.
Ça, ça va pas. Oui.
Vous évoquez les petites phrases. En France, Valéry Giscard d'Estaing affirme avoir gagné la présidentielle de 74 grâce à cette formule qui est restée dans l'histoire.
Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Sûrement pas.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Voilà, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'était une des phrases qui est restée mythique hein, dans les débats présidentiels de l'entre-deux-tours en France. Dans ses mémoires, Valéry Giscard d'Estaing, je me tourne vers vous, Michel Cotin, hein, écrit « Les études faites par les politologues de la campagne de 1974 ont abouti à la conclusion que la phrase que j'ai prononcée ce soir-là m'a fait gagner aux alentours de 500 000 voix. »
Oui, je ne suis pas sûre de ça. Je suis sûre que ça a eu un autre effet qui va dans le même sens. Ça a complètement déstabilisé Mitterrand. Et alors, je sais ce qu'a écrit Giscard, mais je sais ce que m'a dit Mitterrand, il a été complètement déstabilisé pendant 5 minutes et il n'a plus jamais retrouvé la même agressivité. Donc, c'est pas tellement la phrase, c'est l'impact sur l'autre candidat.
Ça veut dire qu'une sortie de Trump peut déstabiliser de la même manière Clinton cette nuit.
En revanche, en 1981, Mitterrand avait dû penser pendant 7 ans à comment il allait river son clou à Mitterrand, à Giscard, il ne pensait qu'à ça. Il s'était d'ailleurs exercé avant.
Et l'homme du passif.
Il avait lancé l'homme du passé. Il l'avait essayé dans d'autres meetings, dans des meetings. Et vous n'êtes pas. Quel dommage que vous ne soyez pas l'homme du. Je suis peut-être l'homme du passé. Je veux dire, quel dommage que vous soyez l'homme du passif. Bon, ça, effectivement, ça aussi déstabiliser Giscard. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui gagne, au fond, mais je vois que c'est celui qui perd pied, et donc ça a une importance quand même importante sur la fin du débat. Non, on n'est pas sûr que politiquement, ça ait des résultats flagrants.
Mais... Anne Desine, on peut imaginer un tel scénario, ce soir, entre Hillary Clinton et Donald Trump?
Alors, c'est difficile parce qu'elle, c'est une très bonne débattrice. Elle a débattu, elle a participé à, je sais pas, une quarantaine de débats. Alors, pas présidentiels, mais il y a eu le Sénat, il y a eu sa campagne de 2008, etc. Donc, elle est totalement rodée. Elle connaît les chiffres parfaitement.
Est-ce qu'elle peut être déstabilisée par les capacités d'improvisation, de provocation de Donald Trump? Est-ce qu'il peut marquer des points là-dessus?
Pendant sa préparation, il y a des gens qui ont joué Donald Trump. Donc, elle a dû se préparer à des attaques épouvantables. Et il paraît que Donald Trump aurait menacé de mettre Jennifer Flowers, donc l'ex-maîtresse de son mari, au premier rang à Hofstra University, etc.
Bon. C'est d'un goût?
Ah oui, c'est douteux, c'est les États-Unis. Bref. Je pense qu'elle est prête à tout. Mais Donald Trump, c'est un homme de télé-réalité. Il est comme un poisson dans l'eau. Il est capable de réagir. Je pense que tout glisse sur lui. On a bien vu. Il commet les pires erreurs. Il dit des épouvantables choses. Et le lendemain, tout va bien. Tout le monde a oublié. On est passé à autre chose. Hein, que ce soit se moquer d'un handicapé, le racisme, etc. Donc, ça va être très, très difficile pour elle. La seule chose un peu réconfortante, si nous n'avons pas envie que M. Trump gagne, c'est que ce débat, certes, va être vu par sans doute 100 millions de personnes.
Un record, dans ce cas-là.
Comme le Super Bowl, vous aviez raison. Mais dans ces 100 millions, il y a déjà tout le camp de ceux qui vont voter pour elle, ça c'est sûr, ceux qui vont voter pour Trump. Et puis on sait que l'élection se joue non pas au plan national, où les sondages sont assez proches, on parle de 2-3 points d'écart, c'est-à-dire quelque chose de pas très significatif, mais dans les États, dans les fameux États pivots. Et donc, c'est ces gens-là qui sont importants. Cette petite frange d'indécis toujours, encore dans les États pivots, comment vont-ils recevoir
la frange, toujours la
Michel
frange
Cotin.
Qu'il faut gagner. Parce qu'en France, où il y a généralement un représentant de la gauche, un représentant, chacun se déporte vers le centre pour essayer. Donc, c'est toujours la marge qui fait la décision. Et à la fois, c'est cette marge qui est la plus difficile à analyser.
Oui, et ce qui est intéressant cette année, c'est qu'aux États-Unis aussi, pendant les primaires, les candidats se déportent soit à droite, soit à gauche. Et pendant l'élection générale, théoriquement, ils doivent revenir au centre. Or, on constate que ce n'est pas du tout ce que fait Trump. Il continue à vouloir faire plaisir à ses électeurs, donc à avoir un langage relativement outrancier. Même si grâce au téléprompteur, c'est un tout petit peu moins catastrophique.
Cette nuit, il faut qu'il flatte un petit peu une autre opinion publique. Il faut qu'il montre qu'il a l'étoffe d'un président.
Tout à fait. C'est ça son grand enjeu. Il faut montrer qu'il a l'étoffe d'un président. Clinton lui avait dit qu'il était thick skin, c'est-à-dire qu'il ne sait pas résister aux critiques. Donc il faut, si elle va le chercher, si elle va le piquer, mais pas trop, sinon elle tombe dans le piège. il faut qu'il soit capable de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas s'emporter et de montrer qu'il a un peu de calme et de modération. Est-ce possible?
Est-ce qu'on perd ce débat parce qu'on ne l'a pas assez préparé? C'est Donald Trump, selon les observateurs, n'a pas tant travaillé ce débat. Alors qu'effectivement, Anne Desine le disait, Hillary Clinton l'a bossé, elle s'est entraînée avec des faux Trump, elle a même rencontré l'autobiographe de Trump.
Je pense quand même que pour ce genre de débat, quand même, qui est un débat mondial, il vaut mieux avoir, qui touche la terre entière, je veux dire, il vaut mieux avoir préparé ses dossiers.
Donc Donald Trump risque de perdre, alors. Voilà,
je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir en étant cet extraordinaire animateur de télé-réalité. Mais elle connaît ses chiffres, elle connaît les problèmes. Encore faut-il qu'elle arrive à les placer dans le bon rythme, sans avoir l'air
d'écraser
Trump. Donc c'est effectivement quelque chose de difficile, mais c'est ça qui rend cette mécanique américaine fascinante.
Il faut qu'elle réussisse à montrer qu'elle est compétente sans être arrogante. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est intéressant.
Que l'autre est arrogant sans être compétent.
Voilà, exactement. D'ailleurs, Obama lui a dit, il semblerait, comme conseil, sois toi-même, montre que tu es la personne que moi je connais en public, que tes amis, en privé, pardon, connaissent en privé. C'est-à-dire, essaie de faire tomber cette carapace construite au fil des années. C'est le plus difficile.
Est-ce que Donald Trump peut aussi perdre parce qu'en face de lui, il a une femme? Et effectivement, dans l'électorat féminin, il n'est pas en position de force.
Je suis étonnée de voir à quel point, au contraire, l'opinion féminine ne se mobilise pas du tout en faveur d'Hillary Clinton. Et quand vous avez dit tout à l'heure que chacun déplaisait à 60% les Américains, dans ces 60%, il y a des femmes. Et même, ça a été un étonnement pour moi de me dire, mais comment est-ce que cette femme, qui de loin a l'air vraiment de dominer l'ensemble, est à ce point haïe et par les Américains? Donc voilà, et je n'ai pas de réponse à ça, vous en avez sûrement.
Mais oui, il y a des éléments de réponse, mais ce qui est en partie cette propagande, ce battage depuis les années 80, ce qu'elle avait appelé, lorsqu'il y avait eu la mise en accusation de son mari, le complot d'extrême droite, ça continue. Ils sont toujours en train de chercher un petit quelque chose. Prenons Benghazi. Benghazi, c'est terrible ce qui s'est passé, mais enfin, on ne peut pas demander au secrétaire d'État de vérifier la sécurité de chacun des postes, même en Libye. Bon, ça a donné lieu à des attaques répétées dans les journaux, à multiples commissions d'enquête devant les deux chambres, y compris une qui a duré 13 heures. Et à chaque fois, on ne trouve rien et hop, on recommence.
Vous évoquez les journaux. Est-ce que la presse a aussi un rôle? Parce qu'il y a le débat, mais il y a aussi l'après-débat. Alors, je vais citer 1981. Vous avez animé, Michel Cotta, ce débat de l'entre-deux-tours en France. Le débat a été considéré comme un match nul entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et le lendemain, le Figaro a vu Giscard d'Estaing vainqueur, je cite assez nettement, tandis que Le Monde a évoqué un renversement des rôles.
Sauf que les journalistes suivent les sondages. Donc, sur le moment, le lendemain, ils ont dit match nul parce qu'ils ne savaient pas. Et puis, quand le sondage est arrivé à 52-48 en faveur de Mitterrand, effectivement, c'était plus facile de dire que Mitterrand avait des chances de l'emporter.
Il y a aussi les orientations politiques des journaux qui jouent, j'imagine, et qui peuvent booster un petit peu les candidats.
Chacun a peut-être ses sondages, mais enfin, le sondage 52-48 courait entre les deux tours. Et donc, on a su trois jours avant que, vraisemblablement, François Mitterrand allait gagner.
Anne Desine, quel peut être le rôle de la presse américaine après le débat de cette nuit?
D'abord, il faut voir que chaque camp est en train de minimiser les enjeux, hein, que ça soit du côté Clinton ou Trump, c'est un débat, c'est important, mais c'est pas si vital. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'il y ait une catastrophe, voilà. Ensuite, chaque camp va clamer la victoire, ça c'est normal. Et aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que les médias, d'abord, il y a maintenant tous ces tweets, etc. Donc, il va y avoir en direct des tweets pendant le débat. Il va y avoir un traitement en direct de cette information et de ce que pensent les électeurs. Et ensuite, une segmentation des médias. Donc, les médias de droite vont dire c'est génial, Trump a gagné. Et les médias plus libéraux vont dire Clinton l'a emporté.
Et voilà les débats présidentiels de 2016. Merci beaucoup à Anne Desine, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Merci à vous, Michel Cotta, également journaliste, écrivain, les cahiers secrets de la 5e République dont vous êtes l'auteur. Ce débat est maintenant terminé. Et puis le débat Clinton-Trump, ce sera à 3h du matin, heure française. Merci à Florence Ponce et à Hélène Alvril dans 30 secondes l'info.